cobuzz.com.
Rencontre par Marc Zisman.
François-Xavier Roth, bonjour.
Bonjour.
Alors à Cobuzz, on voulait vous rencontrer. Déjà, on va dire que le prétexte, ça serait peut-être votre nomination à la direction musicale de l'Orchestre Philharmonique de Liège, qui démarra, je crois, dans un peu plus d'un an, à la rentrée 2009.
Tout à fait.
Liège, c'est une ville que vous appréciez, au-delà de l'aspect, j'allais dire, musical, juste
Ah oui, c'est un orchestre, une ville que j'ai découvert l'année dernière. À l'invitation de Pascal Roffet, j'avais dirigé une série de concerts avec eux. Et c'est vrai que et l'orchestre, et la ville, et les gens m'ont tout de suite séduit. Il y a un côté un peu atypique de la manière peut-être de faire de l'orchestre, et en tout cas très certainement de concevoir la vie culturelle et musicale dans cette ville. Donc il y a eu peut-être pas un coup de foudre, mais une vraie attirance de ma part.
Quand on prend une direction musicale, donc qui aura lieu dans un peu plus d'un an, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on essaye de trouver la balance entre l'histoire de l'orchestre qu'on prend en main, ses choix personnels.
C'était la convergence de beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y a l'histoire de l'orchestre. Il y a, ce qu'il a vécu en termes de répertoire, en termes de directeurs musicaux qui s'y sont succédés. Et puis, il y a, l'actualité d'un orchestre au XXIe siècle aujourd'hui, dans cette situation particulière géographiquement qu'est Liège, c'est-à-dire vraiment au milieu de l'Europe. Et puis, il y a les attentes que peuvent... avoir un orchestre en demandant à tel chef d'orchestre de venir pour une mission de directeur musical. Donc vous voyez, c'est la rencontre de ces différents paramètres qui sont là en train d'être travaillés pour préparer les saisons à venir. Jean-Pierre Rousseau m'a demandé de venir à Liège, c'est parce que peut-être j'incarne un certain nombre de choses en termes de répertoire, en termes de vision de ce que peut être un orchestre aujourd'hui, de la manière dont il peut être dirigé, managé d'un point de vue musical. Et puis moi j'attends aussi beaucoup de ce que les musiciens vont apporter à ce projet musical. Donc vous voyez, c'est vraiment la rencontre de plein d'éléments différents.
Comment, parallèlement à ça, puisque vous avez créé... l'Orchestre Les Siècles, en 2003, je crois.
Tout à fait.
Donc ça, c'est, une expérience très, très personnelle. C'est quelque chose que vous avez créé, donc pas que vous avez pris en cours avec un passé, un futur. Comment, en fonction de ces choix, justement, on arrive à gérer ces deux, c'est même plusieurs, j'allais dire, puisque parallèlement à ça, il y aura sûrement d'autres des concerts, vous dirigerez sûrement des formations autres. Comment on passe, de l'un à l'autre, c'est-à-dire conserver son identité musicale tout en se retrouvant face à des musiciens, soit parfois qu'on connaît depuis longtemps, soit parfois avec lesquels on va diriger pendant
peu de temps. Oui, c'est-à-dire, moi, la grande chance que j'ai aujourd'hui, c'est que je suis rattaché à des formations que j'aime diriger et que, avec qui j'ai créé des liens au fur et à mesure des années. Alors, maintenant, ça va être Liège beaucoup. Vous avez cité Les Siècles, ça c'est une chose un peu à part, puisque c'est un orchestre que j'ai imaginé, rêvé, et qui existe aujourd'hui, donc, mais avec un orchestre non permanent, avec à chaque fois des projets, des missions spécifiques. Il y a l'Orchestre Symphonique de Navarra aussi en Espagne, il y a le BBC Wales au Royaume-Uni, LSO, Hong Kong, Helsinki, tout ça c'est des endroits où je vais très régulièrement tous les ans, et où je peux inscrire avec eux mon travail dans la durée. Bon. Mais ça veut dire que, d'un point de vue pratique, les orchestres que je dirige le plus aujourd'hui, c'est LSO, Les Siècles, peut-être l'Ensemble Intercontemporain, et bientôt Liège. Avec chaque formation, je vais avoir une relation plus ou moins intense. Mais je conçois mon rapport avec les musiciens tout aussi riche à chaque fois. Quand on dirige un orchestre, comme c'est le cas par exemple récemment, j'ai dirigé pour la première fois l'orchestre de la radio d'Helsinki. Tout de suite, il y a eu une espèce de d'entente sans mots. Hein. Vous savez, ce qui est génial de la direction, c'est qu'on n'a pas besoin de parler. D'ailleurs, les musiciens, souvent, ils préfèrent, quand on ne parle pas trop, les chefs, ils préfèrent jouer et avoir cette relation oui, du geste et du geste du chef et du geste instrumental de l'instrumentiste. Voilà, c'est des relations qui sont quelquefois oui, très très intenses. Et la grande chance que j'ai, c'est que ces formations avec lesquelles je fais de nombreux concerts ou des opéras, eh bien, j'ai un travail sur le long terme avec elles. Et ça, c'est vraiment quelque chose de... Parce que je dis ça, parce que c'est vrai que je ne suis pas vieux, à 36 ans, j'ai des collègues qui, commençant leur carrière, expérimentent ou sont tentés de diriger de multiples formations. Moi, j'ai la chance, et c'est aussi parce que je le veux, de concentrer mon travail sur ces formations.
Est-ce que, en tant que chef d'orchestre, il y a un côté un peu psy, c'est-à-dire qu'on doit s'adapter aussi bien à des patients qu'on suit depuis des années, et en même temps, parfois, vous avez cité tout à l'heure une expérience récente où vous vous êtes retrouvé face à un orchestre, donc des musiciens que vous ne connaissiez pas, et très rapidement, il doit y avoir de l'écoute, mais en même temps, une volonté d'aller dans telle ou telle direction.
Oui, alors psy, je ne dirais pas pour le côté rapport, justement, médecin et patient, parce que c'est pas du tout ce rapport-là. On est sur le même pied d'égalité, on doit défendre une œuvre, mais très certainement qu'un chef d'orchestre doit prendre en compte dans sa manière de travailler la psychologie du groupe et la psychologie individuelle des musiciens. Donc ça, c'est une chose très très importante. Hein. Mais je dirais au même titre que, je ne sais pas, un chef d'entreprise ou un leader syndical ou politique, hein, à chaque fois, une situation de une personne qui est en charge d'amener un groupe, qui soit de 12 ou de 200 personnes, d'amener un groupe à interpréter dans une même voie, dans un même sens, une œuvre. Voilà, donc c'est très certainement qu'il y a cet aspect-là qui est très fort, oui.
Quand vous choisissez de diriger une œuvre, notamment de l'enregistrer, est-ce que l'enregistrement est quelque chose de particulier pour vous, au sens où c'est quelque chose qui reste, évidemment, et surtout, est-ce que c'est quelque chose que vous décidez en fonction, des enregistrements passés? Est-ce que certaines œuvres pour lesquelles vous y allez de manière plus précautionneuse parce que... Comment ça fonctionne?
C'est un peu compliqué, surtout que avec toutes les mutations technologiques qu'on a aujourd'hui, qu'on observe, ça rend la chose encore plus complexe, mais je dirais encore plus dynamique. Moi, je suis pas d'un naturel pessimiste, et je trouve que toute la révolution technologique autour des enregistrements, et notamment les enregistrements de la musique classique, qui a lieu aujourd'hui, peut être salutaire. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, je suis dans une réflexion de savoir qu'est-ce qu'on peut apporter au public aujourd'hui, qui n'est pas seulement un disque-objet avec une belle pochette, mais qu'est-ce que le musicien qui pratique la musique classique peut apporter aujourd'hui au public. Bon, et dans la programmation, c'est-à-dire dans le choix d'interpréter ou d'enregistrer telle ou telle œuvre, c'est pareil. Ça va être, si on met en branle, par exemple, une intégrale Beethoven, est-ce qu'on ne pourra pas y adjoindre un contrepoint plus étonnant? Ça, c'est aussi ma manière de programmer mes concerts. Hein. C'est-à-dire que j'ai toujours été intéressé de faire confronter des œuvres au même programme dans un concert et aussi dans un disque qui nous disent un peu plus sur les œuvres peut-être qu'on connaît très bien. Hein. Bon, mais par exemple, pour revenir au disque, quand René Martin, il y a 2 ans, m'avait dit « On veut enregistrer avec toi et les siècles, qu'est-ce que tu penses comme programme d'un premier disque ?» Tout de suite, j'ai pensé à ce programme Bizet-Chabrier. Hein. Tout d'abord parce que c'est une musique qu'on aime infiniment défendre avec l'orchestre, qui est un peu méconnue du public. Et puis en plus, c'était un espèce de challenge puisque ses œuvres n'avaient jamais été enregistrées sur instrument d'époque. Et la symphonie en ut de Bizet, comme vous savez, qu'il avait écrite à 17 ans, il ne l'a jamais entendue de son vivant, puisqu'elle a été créée au début du XXe siècle. Donc il y avait comme ça un tas d'attraits autour et puis d'excitation autour du fait d'enregistrer ses œuvres. Maintenant, oui, je dirais que on est en tout cas, nous, avec les siècles, et puis moi personnellement aussi, dans une réflexion de se dire, voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut... parce qu'il y a aussi une émission de télévision. Nous, on est dans partie prenante, on est l'acteur principal de Presto sur France 2, qui est aussi un déploiement d'enregistrement et audio et vidéo avec un montage particulier, un filmage nouveau. Donc tout ça fait que, voilà, là vous m'interrogez dans une période qui est de réflexion intense autour de tout ça.
Est-ce que dans cette réflexion vient s'immiscer également le vaste débat de la crise du disque, de la dématérialisation de la musique?
Ah bah oui, c'est ça que j'évoquais vraiment très clairement. Hein, c'est-à-dire que je pense que le disque objet n'a pas d'avenir, hein, ou alors peut-être un avenir différent, mais que maintenant, forcément, on doit aller vers les nouveaux supports. Hein, mais ça ne veut pas dire que... Tout ce qui est en train d'émerger est bien en ce moment. Hein, on est les premiers, les musiciens, par exemple, à souffrir de la compression. Moi, j'ai peur que mes enfants, par exemple, s'habituent à cette sonorité quand ils écoutent leur musique à eux et aussi d'autres musiques, mais cette sonorité assez pauvre en harmonique. Et la compression, c'est quelque chose qui est très frustrant pour les musiciens. Mais j'espère qu'on va trouver... tous les outils qui vont nous permettre de diffuser la musique plus largement. Je pense que le disque compact aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est un peu d'un autre âge.
Qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre propre formation, Les Siècles, en 2003? Est-ce que c'était pour pallier un manque? C'était un désir? C'était lié à des rencontres? Comment tout soudainement, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez mûri depuis un certain temps?
Ah oui,
ou c'est
oui,
arrivé
oui.
Vraiment.
Moi, je dis souvent que c'est un orchestre que j'ai rêvé quand j'étais adolescent. Moi, j'ai baigné dans la musique, hein, puisque mon père, c'est le grand organiste Daniel Roth. Et quand j'étais adolescent, je faisais de la flûte. Et puis, j'avais une grande discothèque avec plein de choses très variées. Hein. J'avais du Buxtehude, du Monteverdi. Du Xenakis, du Boulez, aussi du Schumann, enfin plein de choses différentes. C'était le début du compact disque, d'ailleurs, hein, quand j'étais ado, je sais pas, 13-14 ans. Et puis, j'ai eu une espèce de choc très grand quand j'ai lu un bouquin d'Arnoncourt, Le discours musical, qui disait, qui annonçait que le violoniste du 21e siècle, eh bien, j'aurais le matin, la chaconne de Bach sur instrument ancien, et l'après-midi, la sequenza de Berlioz sur instrument moderne. Et là, je me suis dit, alors, est-ce que, parce que déjà, je voulais devenir chef d'orchestre, est-ce que un jour, je pourrais créer, ou peut-être pourra exister, un orchestre qui ait cette démarche?
C'est-à-dire... Excusez-moi de vous interrompre, mais à ce moment-là, en plus, il y avait encore, c'était un peu le grand débat d'un instrument ancien contre... Est-ce que justement, c'était aussi la volonté de...
Oui, ben, c'est-à-dire, je pense que les années 80-90, ça a été l'apogée, le climax de la spécialisation. C'est-à-dire, c'est là qu'on a vu l'émergence de tous ces ensembles baroques, entre guillemets, et contemporains, c'est-à-dire type EIC, qui ont émergé partout comme des champignons. Et vraiment, mais je pense que c'est même dans l'histoire de la société, en tout cas européenne, c'était un désir très fort d'aller très loin dans une voie d'hyper-spécialisation. Mais quelqu'un de très avisé, comme Arnoncourt, voyait déjà que ça n'aurait qu'un temps et que finalement, tous ces apports, quels qu'ils soient, se digèrent au fur et à mesure des générations et que donc il annonçait, il entrevoyait... cette perspective d'avoir finalement ces bagages multiples. Hein. Et donc, moi, je me suis dit, ce serait extraordinaire, ce serait un rêve de pouvoir créer une formation qui n'ait plus de tabou en termes de répertoire, puisse faire cohabiter des musiques de temps éloignés avec à chaque fois cette exigence et ce désir d'excellence pour chaque époque. Et donc, mais je ne savais pas à l'époque que je pourrais faire ce groupe. Et très certainement que les deux personnes qui m'ont toujours marqué d'une manière indélébile dans ma formation, qui sont Joniel Gardiner et Boulez, ont très certainement stimulé ce désir de créer l'orchestre. Et quand je me souviens très bien, quand j'ai commencé à être assistant de John Elliott, son énergie déployée à réaliser ses projets m'a très certainement convaincu de franchir le pas.
Comment ça se passe justement quand vous avez parlé de Gardiner, une personne assez emblématique avec un style donc assez jeune, d'avoir la chance de travailler à ses côtés, donc dans une période où on se forme, etc., de se retrouver avec une personne comme ça, comment on trouve justement le bon équilibre entre l'apprentissage de cette figure et sa propre personnalité? Est-ce que c'est facile? C'est un combat permanent avec soi-même? C'est comment ça...
Non, parce que vous savez, quand on travaille à côté d'un grand monsieur comme ça, moi j'ai toujours su très rapidement avec lui quel devait être mon rôle. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec lui sur des productions lyriques, hein, d'envergure, hein, puisque Les Troyens, ouais. Cellini, Falstaff, Oberon, bon. Et à chaque fois, j'ai su exactement qu'est-ce qu'il attendait de moi et ce à quoi j'étais utile pour lui. Et donc, mon attitude a été d'être une sorte d'éponge, ouais. C'est-à-dire de prendre tout ce que je pouvais prendre de lui... Était positif, était bonus pour moi. Vous voyez, donc je me suis pas du tout, on se place pas, enfin moi en tout cas, c'était pas du tout ma posture de me dire j'ai telle opinion sur telle chose, lui pense telle chose, comment est-ce que j'arrive à me donner une idée précise. Non, c'était plutôt je suis dans son ombre, parce que c'est ça un assistant, j'épouse totalement sa direction en général, hein, pas seulement musicale, et puis après on verra. Et c'est avec les années finalement qu'on se rend compte de telle chose qui a été marquante d'un point de vue musical, d'un point de vue même d'organisation du travail de sa part, et puis telle autre qu'on oublie. Ça c'est le temps qui fait ce travail-là.
Alors de tout ce que l'éponge a absorbé, est-ce qu'il y aurait une chose que vous mettriez un peu au-dessus du lot?
C'est exactement ce que j'évoquais, c'est-à-dire... Gardiner a cette intégrité d'interprète qui est que quand il défend une œuvre, c'est à la vie et à la mort. C'est-à-dire que il a une espèce de loyauté infinie que j'ai rarement rencontrée entre lui, le compositeur, et l'œuvre qu'il faut interpréter. Et ça, c'est quelque chose qui peut paraître normal, mais qui ne l'est pas, malheureusement, hein, dans notre milieu musical. Et quand je pense à ça aussi en 2008, bien évidemment, je pense à quelqu'un comme Karajan, qui a été aussi un immense musicien dans un tout autre registre, mais qui a été une espèce de... le symbole du chef qui a tout enregistré. Donc... il y avait un côté peut-être commercial et peut-être un peu aberrant de l'interprète de se dire qu'il a fait tellement de choses qu'il en a fait des choses merveilleuses, mais il y a aussi des œuvres qu'il a défendues alors qu'il n'y croyait certainement pas. Et ça, Gardiner, c'est l'antithèse de ça. C'est-à-dire que c'est si je vais faire telle œuvre, même une petite chose. Quand je pense à ça, je sais pas, une petite marche de Chabrier qui veut défendre, eh bien, c'est à la vie et à la mort. Et ça, c'est extraordinaire.
Faire des grands écarts entre Chabrier, je sais pas, et Boulez, par exemple. C'est quelque chose que vous avez vraiment en vous. C'est quelque chose de qui
Moi,
est nécessaire.
J'ai toujours pratiqué ça. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à diriger. Bon, déjà, quand j'étais
c'est-à-dire...
Ah ben oui, quand j'étais flûtiste, par nécessité, je devais jouer des musiques diverses, hein, en termes de répertoire. Et quand j'étais enfant ou ado, j'avais ce goût d'auditeur, déjà, pour des choses éloignées, dans le temps. Mais je pense que c'était peut-être pas à la mode à l'époque, quoique... Donc, c'était quand même pas à la mode à l'époque, parce que je me souviens que les goûts de mes copains au lycée ou au collège aller plutôt vers une période
c'est
précise.
C'est tranché le côté, aujourd'hui c'est un peu le côté iPod, c'est-à-dire que les gens vont passer un morceau de jazz ou de
Ouais. Mais moi c'est quelque chose qui m'a toujours plu, alors comme auditeur, et ensuite comme interprète, quelque chose qui stimule en plus... qui stimule ma vie de chef. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne des exemples très précis. Il y a 15 jours, j'ai fait un programme de musique baroque française avec les siècles. Là, je pars à Hong Kong diriger du Bartok et du Tchaïkovski. Ensuite, je vais diriger du Mozart sur un instrument d'époque. Ensuite, je vais diriger avec les siècles. Je vais aller à Londres avec le LSO diriger un programme de musique américaine avec du Copland, du Gershwin, du John Adams. Donc, vous voyez, c'est vraiment les grands écarts. J'oublie aussi un programme boulesque que je vais faire à la rentrée, mais qui sont pour moi nécessaires et qui... vous voyez, quand je dirige une création, par exemple, j'ai la chance d'avoir le compositeur à mes côtés. Et puis je peux le questionner, même si c'est pas quelquefois de manière formelle, mais il est là, sa présence m'interroge en tant qu'interprète. Et bien, la semaine d'après, si je fais une musique qui a 200 ou 300 ans d'âge, je ne peux pas ne pas avoir oublié cette expérience. Et forcément, dans ma manière de travailler, dans ma manière de répéter, d'aller au concert, eh bien, je vais questionner cette personne qui malheureusement n'est plus là. Mais avoir ce même souci de comprendre qu'est-ce qu'elle a voulu entendre en écrivant ça. Donc c'est quelque chose qui vraiment maintenant est partie intégrante de ma vie. Et en plus, je crois fondamentalement que la musique moderne ou des musiques assez récentes non seulement ont un rôle hyper dynamique, doivent avoir un rôle hyper dynamique dans notre vie artistique, mais en plus, elles doivent éclairer d'une certaine manière aussi les œuvres du passé. Récemment, par exemple, j'ai fait, pour la BBC, il y avait un concert que j'avais fait avec BBC Wales, avec la 9e de Beethoven, et qu'ils ont pris comme CD du mois sur le magazine BBC. Et je me souviens très bien que j'ai eu une interview avec un journaliste de la BBC et je lui ai dit, mais aujourd'hui, quand on programme la 9e de Beethoven, je suis convaincu que le public attend du chef d'orchestre ou de l'orchestre qui lui propose en contrepoint de cette œuvre monumentale une surprise, une œuvre qui va donner un éclairage nouveau à cette 9e de Beethoven. Donc c'est quelque chose qui est vraiment... complètement intégré en moi.
Cet éclectisme, cette vision très très large, est-ce qu'il y a un côté, j'allais dire, un peu vorace, glouton, d'aller parfois même chercher des pans de l'histoire de la musique qui sont soit peu enregistrés, soit peu joués, ou comment ça se passe? Parce que c'est vrai qu'on se retrouve avec une largeur, j'allais dire, de répertoire.
Oui, mais en même temps, je n'ai absolument pas la prétention de savoir tout faire.
C'est plus à titre personnel, j'allais dire, en termes vraiment de... d'envie, de découverte, de choix musicaux, plus qu'en termes de dire je veux vraiment tout
couvrir. Oui. Plus... Ben, c'est sûr que moi et mon équipe, on cherche, on est des espèces d'Indiana Jones de la musique classique, on cherche, alors qu'est-ce qui va être, comme œuvre peut-être un peu... délaissé, hein, vous évoquiez ça. Par exemple, je me réjouis beaucoup du fait que, très modestement, mais je crois que avec le disque qu'on a fait de Bizet et Chabrier, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas la suite pastorale de Chabrier. Et je me réjouis, par exemple, de voir de ci, de là, cette œuvre de plus en plus programmée. Récemment, on était à Nantes pour la folle journée, où c'était, comme vous savez, Schubert, le thème. Ben, moi, j'ai amené... René Martin nous a demandé de faire l'inachevé, on l'a fait avec grand plaisir, mais je voulais faire entendre, à côté de cet inachevé, la deuxième symphonie de Méhul. Parce que c'est absolument confondant d'entendre que cette musique a eu certainement une influence sur Schubert et que, ben voilà, de montrer aussi au public qu'est-ce qu'on pouvait entendre, qu'est-ce que Schubert a pu entendre comme musique symphonique ou qu'est-ce qui pouvait exister en France à ce moment-là. Voilà, c'est des exemples parmi tant d'autres. L'année prochaine, dans 2 ans, on va faire un programme autour de Brahms avec quelques œuvres de Brahms pour orchestre. Ben, j'ai demandé aussi à ce qu'on travaille avec le grand compositeur allemand Jörg Widmann, qui est un compositeur peut-être un des plus géniaux de ces prochaines années et qui fait un travail sur l'orchestre aussi qui est très très intéressant en regard de la musique de Brahms. L'année prochaine à Royaumont, on va faire un cycle avec la musique de Martin Matalon qui a écrit des solos et des concertos, hein, Trame et Trace, en parallèle, en miroir des Brandebourgeois et des solos de Bach. Donc c'est toujours, oui, j'essaye toujours d'avoir une réflexion sur les œuvres et la programmation qui est dynamique.
Vous avez évoqué depuis le début de notre conversation plusieurs compositeurs contemporains, vivants. Oui. C'est aussi essentiel pour vous, j'imagine, de pouvoir justement, vous avez donné, expliqué l'influence justement que ça pouvait avoir sur la lecture d'œuvres anciennes. Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est parfois justement un peu mis de côté, que les compositeurs contemporains ne sont pas assez mis en avant par rapport ne serait-ce qu'au grand public, il y a toujours un peu ce côté un peu compositeur contemporain, inapprochable.
Ben, c'est-à-dire, moi, je suis mal placé pour commenter ou pour répondre, parce que dans mon univers que j'ai créé, c'est-à-dire des œuvres que je programme, c'est pas le cas. C'est-à-dire que les musiques d'aujourd'hui, les compositeurs d'aujourd'hui sont présents constamment dans mon travail. Voilà. Donc, c'est même pas. J'aime pas tellement ce mot défendre. Ça veut dire qu'on défend, on est attaqué. Moi, je suis pas attaqué. Mais c'est simplement. Vous voyez, là, je pars à Hong Kong avec un programme. Je fais la 5e de Tchaïkovski, je fais le 2e concerto de Bartok avec Jean-François Esser, et je fais Regarder le de Pierre Charvet, une pièce avec électronique et orchestre symphonique. C'est typiquement les programmes que j'aime imaginer. Ouais. Et c'est pas du tout une sorte d'alibi, c'est vraiment nécessaire de faire entendre la musique qui est écrite aujourd'hui. Ouais. Dans toute sa variété en plus, parce que moi je suis pas du tout... Je n'appartiens à aucune chapelle esthétique. Moi, j'aime les œuvres quand elles sont bonnes, et voilà.
Quand on est issu d'une famille de musiciens, donc j'allais dire, on est dedans hein, depuis le début, depuis le premier jour.
Même avant, oui.
Comment on trouve sa vocation de chef ? C'est-à-dire, est-ce que quand vous aviez 5 ans, vous étiez sur votre lit, debout, en sautant avec un crayon à la main, en dirigeant vos disques ?
Non.
Ou est-ce que...
Enfin, quoique, j'en sais rien, mais...
Je n'ai pas le souvenir,
mais je pense que, de toute manière, l'influence de mon père, elle a été énorme. Et quand je vous disais même avant, c'est-à-dire que je pense que dans le ventre de ma mère, il y a déjà plein de choses qui se sont passées, puisque j'ai entendu, j'étais baigné... d'orgue et de musique aussi d'horizons divers parce que mon père a aussi pratiqué des musiques de temps un peu éloignés les uns des autres mais non, ensuite je pense que je me souviens très précisément de quand j'ai entendu un orchestre pour la première fois et de la magie que me procurait la sonorité des cordes. Vous voyez, c'est étrange hein, c'est une chose que j'ai retrouvée ensuite tout le temps dans mon enfance, à chaque fois, j'attendais ce moment d'entendre les cordes de l'orchestre.
C'était lié à une œuvre en particulier ?
Ah non, pas du tout. C'est la magie du son démultiplié, vous voyez ? Cette espèce de truc incroyable que peut procurer un orchestre. Et puis voilà, moi, c'était une envie irrépressible. C'est-à-dire que, bon, et après...
La direction, il y a vraiment quelque chose de particulier dans la direction.
Bien sûr, parce que si vous regardez, il y a des millions de gens qui veulent être chef. Millions. Soit qui veulent, ou c'est une envie comme ça, soit c'est un fantasme, soit c'est un désir. Moi, je passe mon temps à rencontrer des gens qui me disent « Ah oui, moi j'aurais voulu être chef » ou « J'ai pensé à la direction ». Donc, pour y arriver, il faut que vous soyez plus que motivé. Mon prof Janos Fürst, il disait qu'il faut que ce soit une envie qui vous empêche de dormir. Et moi, c'était le cas. Et je ne peux pas expliquer pourquoi. Je pense que j'avais un leadership en moi, hein, quelque chose, et puis ma place était là. Et par exemple, j'ai joué de la flûte. Je pense que j'étais un très bon flûtiste. Enfin, bon, moi, je travaillais beaucoup. Mais j'ai toujours, l'instrument était toujours un peu trop étroit. Vous voyez, c'est marrant, hein.
À vos débuts, vous aviez des modèles de chefs ou c'était toujours pareil, c'était l'éclectisme aussi lié à vos goûts et vous trouviez face à des icônes ou des idoles qui étaient finalement assez diverses.
Oui, ouais. Moi j'ai les deux chefs dont je vous parlais, Pierre Boulez et Johnny Gardiner, ils étaient dans ma discographie déjà. Hein. J'avais une admiration sans borne pour leur travail déjà. Et puis après, je dirais, c'était plus des œuvres avec des interprètes. Hein. Je sais pas, la danse des sept voiles de Strauss avec Karajan, quatrième symphonie de Brahms, Kleiber, Daphnis, Munch, bon, toutes des choses qui sont pas
donc
très
plus
originales,
aux œuvres,
hein.
En fait, qu'à la personnalité.
Oui, mais oui, quelqu'un comme Monteux aussi m'a toujours impressionné beaucoup. Bernstein, bien sûr, dans Mahler, bon. Oui, des œuvres, des chefs, oui.
L'expérience de l'émission sur France 2, c'est un moyen aussi de toucher un large public. C'est aussi quelque chose pour vous d'important de ne pas d'essayer, on parlait de crise du disque, etc. Certains évoquent effectivement les difficultés de la musique classique, au niveau des enregistrements, parfois même des concerts, parce que c'est vrai que faire jouer un orchestre symphonique, en termes de coûts, c'est souvent plus onéreux qu'un concertiste. C'est aussi quelque chose pour vous d'important, justement, d'essayer de garder, de développer un contact avec le grand public.
Ben oui, c'est-à-dire que l'idée de Presto du début, c'est vraiment Pierre Charvet. Hein, c'est lui qui a rêvé, pensé à cette émission. C'est lui qui la porte, qui la présente. Et c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai une très, très belle relation professionnelle. Moi, j'ai toujours été... comment dire, abasourdi par la manière dont est présentée la musique classique à la télévision. On a l'impression que c'est avant le Moyen-Âge. Filmage, commentaires, présentation, enfin je ne vais pas tailler des costards, mais on dit, ah oui, c'est dommage que ce soit relégué si tard la nuit, mais... malheureusement, c'est normal, tellement ce qu'on a pu proposer aujourd'hui était, enfin, je trouve, ringard. Et moi-même, j'arrive pas à regarder. Et pourtant, je suis de la partie. Donc, je pense que... Alors après, je ne dis pas que Presto est parfait. C'est perfectible, on y travaille. Mais en tout cas, je pense que l'énergie déployée et le cahier des charges artistiques est d'un niveau... qui peut commencer à être comparé avec de la musique pop ou du cinéma ou ce qu'on peut présenter sur les livres à la télévision. Ce qu'on a voulu, hein, c'est-à-dire proposer une émission qui dise au public, mais au fait, vous inquiétez pas, cette musique, vous croyez ne pas la connaître, mais si, elle est dans votre environnement, elle est dans votre culture, et vous l'avez entendue à telle ou telle occasion, et n'ayez pas peur, voilà.
Accrochez.
Exactement. Mais vous savez, c'est une chose qui, moi, m'a toujours attristé profondément, et je suis pas le seul. Quand j'en parle avec les gens de ma génération, ou plus jeunes ou plus âgés, c'est la même chose. On pratique un art. Nous, on sait, l'exceptionnel beauté de ce qu'on fait et de ce que ça peut procurer au public. Et c'est un art qui est connu d'une infinie petite partie de la société. C'est honteux, et encore plus en France qu'ailleurs. Quand je vais chercher mes enfants à l'école, à la sortie, je ne peux pas parler de ce que je fais avec les parents d'élèves, parce qu'ils me prennent pour un extraterrestre, parce que je fais de la musique classique. C'est quand même super triste. Et on fait un art qui ne demande à être partagé que par un plus grand nombre. Donc Presto, ça participe de ça.
Est-ce que vous pensez que le mal, j'allais dire, vient dès le début, c'est-à-dire de la formation à l'école, le rôle de la musique dans la...
Oui, certainement. Alors attendez, on peut parler des heures, des rythmes scolaires qui sont aberrants et qui sont nuls en France. Je veux dire, il faut arrêter de faire... Il faut remettre en cause ça de manière définitive, parce que si on veut que nos enfants et nos futurs adultes aient une culture, soient sportifs, fassent des choses, ben, il faut aussi leur laisser du temps pour faire ça. Et ils en ont pas pour l'instant. Mais si on met ça de côté, je crois aussi qu'il y a une très grande responsabilité du milieu même de la musique classique. Et quand je parle de ça, je fais référence à cette posture qui a consisté, et beaucoup dans notre pays ou dans notre capitale, à dire que c'est un art élitiste. Et ça, je pense que ça a fait énormément de mal aussi à cette accessibilité, ou plutôt non-accessibilité à la musique classique. Vous voyez ? Il y a des journalistes, il y a des interprètes, il y a des directeurs de théâtre ou de festival défendu cette posture un peu snob et bête de dire que la musique classique, l'opéra, la musique contemporaine, eh ben, c'est pas pour tout le monde. Ça doit être réservé à un tout petit nombre.
En voyageant, vous voyez des différences à l'étranger ?
Ah ben oui. Mmh. Oui, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs de voir dans chaque société ou chaque ville quelle est la place de cette musique dans la société. Ça, c'est très, très intéressant. En Asie, en Europe, hein, par exemple, je suis toujours étonné de voir que c'est très, très rapide, par exemple, d'aller à Londres. C'est tout près. Mais les mentalités sont tellement, tellement différentes de chez nous. Hein. Alors, ça, c'est un pays dans lequel j'ai beaucoup travaillé. Et c'est vrai qu'il y a un rapport à l'art et à la musique en particulier qui est assez, assez particulier. Hein. Les orchestres ne sont pas du tout subventionnés, c'est une espèce de jungle pour exister. Mais à côté de ça, il y a un dynamisme des interprètes, des orchestres, des programmateurs, une présence du public qui est incroyable. Ça, c'est assez étonnant. Récemment, quand j'ai été en Europe du Nord aussi, c'est quelque chose de complètement différent, un rapport peut-être beaucoup plus ancré, enraciné dans la manière de vivre des gens, hein, d'aller au concert. C'est quelque chose qui, un acte hebdomadaire très très simple. Hein, on s'habille comme on veut, on va au concert à 19h, comme c'est le cas à Helsinki, qui est très tôt dans la journée. Des concerts avec des programmes assez courts en Espagne, en Afrique du Sud où je vais tous les ans aussi. C'est ça qui est très intéressant. Hein.
Est-ce que cette diversité, vous la retrouvez, j'imagine, chez les musiciens que vous dirigez ? On dit toujours que même si la musique est un langage universel, est-ce que la façon de communiquer...
Mais oui, parce que quand par exemple, comment vous dire ? Quand la musique qu'on pratique est, par exemple, dans un pays, quelque chose de... où il y a un rapport de tradition très fort, par exemple. Prenez l'Allemagne, ou l'Autriche. Ils ont même un verbe, musizieren, pour dire de faire de la musique. On ne va pas avoir du tout le même comportement des musiciens que... par exemple, j'étais à Tokyo récemment pour un orchestre qui connaît cette musique depuis 80 ou 90 ans, voyez. Donc il y a une fraîcheur, il y a un savoir-faire chez l'un et chez l'autre qui font que Staatskapelle de Dresde ne ressemble pas à Boston Symphony Orchestra. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant finalement pour un chef. C'est de prendre ces spécificités et ces manières différentes de faire de la musique. Mais c'est aussi, ça pose la question de qu'est-ce qu'on programme avec ces orchestres-là.
Ça a un impact, tout ça, j'imagine, sur votre vision de la direction musicale, quand vous passez de l'un à l'autre. Comment ça se passe, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que vous apprenez, mais
tout, vous savez, vous avez vu ce truc, certainement, cette vidéo sur le web du robot qui dirigeait un orchestre. Et moi, ça m'a fait très plaisir de voir ça, parce que on avait la preuve en image que ça peut pas marcher. C'est-à-dire que moi, j'ai vu un extrait où c'était la fin du morceau, il y avait un ritenuto, un point d'orgue, un machin, et où le robot, comme par définition, il ne prend pas ce que lui donne l'orchestre, il n'y réagit pas à ce que lui donne l'orchestre, mais il est programmé, eh bien, son ritenuto, il ne marchait pas, et son point d'orgue, il ne marchait pas, et tout ne marchait pas. Et donc, c'est la preuve qu'un chef, il réagit extrêmement à ce que donnent les musiciens. Alors, dans l'acte de diriger, mais aussi dans les répétitions. C'est toujours, toujours un go-between entre lui et l'orchestre. On ne peut pas imaginer que ce soit quelque chose d'arrêté, d'extrêmement autoritaire, sans qu'il y ait le retour de l'orchestre. C'est toujours dans les deux sens.
C'est quoi vos envies dans les années à venir ? Alors, il y a évidemment cette nouvelle affectation, entre guillemets, avec les siècles, avec Liège, avec les autres. Est-ce que vous avez vous mettez des balises comme ça, ou des répertoires, comment ça se passe ?
Ben, alors, il y a des points dans le temps qui sont à moyen, à long terme, qui vont être bien sûr les trois premières saisons que je vais faire à Liège et sur lesquelles on travaille déjà de manière très intensive. Et tout le projet musical dans son ensemble qu'on va mettre au point là-bas et qui sont quelque chose qui m'anime beaucoup en ce moment et qui m'excite hein. Et puis de la même manière ces projets que je suis en train aussi de, je peux pas en parler encore aujourd'hui, mais il y a un très très gros projet que Les Siècles va mettre sur pied à partir de la saison 9-10 et dont je me réjouis énormément. Mais vous savez, pour tous les orchestres que je dirige et pour ma vie même de chef, ce qui est fantastique, c'est que je ne suis que dans la conception, l'organisation, la mise au point de projets musicaux extraordinaires. Alors, c'est ma vie depuis un moment et ça va être de plus en plus ça. Donc, il n'y a pas j'ai cette chance infinie de vivre de ma passion et en plus de créer, de concevoir des projets avec des orchestres ou des maisons d'opéra avec lesquels j'adore travailler. Donc ça va continuer.
Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique, c'est-à-dire en dehors de celles sur lesquelles vous travaillez, ou c'est-à-dire qu'est-ce que vous...
Ah ben, j'écoute pas du tout celles sur lesquelles je travaille. C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que j'écoute soit des choses périphériques aux œuvres que je dirige, soit des choses qui n'ont rien à voir. Oui, j'écoute énormément de musique.
Vous achetez beaucoup de disques, vous allez au concert.
J'achète plus de disques.
Vous téléchargez.
Je télécharge légalement. Je n'ai pas encore mon compte sur Qobuz, mais ça va venir. Mais j'achète sur une plateforme très célèbre beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Et j'ai été un consommateur d'un site que je ne citerai pas, mais qui a fait une entrée fracassante sur le monde internet en proposant des films de musique classique. J'y ai passé une bonne partie de mes nuits de la semaine dernière quand c'était gratuit et je consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui.
C'est quoi les dernières choses que vous avez justement, quelques titres que vous auriez téléchargés ou...
Alors, quelque chose que j'ai téléchargé qui a été un choc absolu, c'est les 5 concertos de Beethoven dirigés et joués par Barenboim avec Stadtkapelle de Berlin. C'est je pense quelque chose qui a quelques années d'ancienneté. Extraordinaire, fabuleux. J'ai acheté, dans un tout autre registre, j'ai téléchargé 2 albums extraordinaires de Carl Craig, un artiste électronique avec lequel je vais jouer bientôt. Donc quelque chose qui n'a rien à voir. Et puis qu'est-ce que j'ai acheté aussi
Ça c'est intéressant, qu'est-ce que vous allez faire avec Carl Craig ?
Avec Carl Craig, on va faire un concert aussi qu'on a imaginé sur la musique américaine, sur la musique électronique, les passerelles qu'il va y avoir entre son art et le nôtre, avec une cheville ouvrière entre nous deux, de luxe, puisque c'est Francesco Schlimme qui va faire ses arrangements d'œuvres de Carl. Et puis nous allons amener notre répertoire, hein, nous allons jouer avec... pour ce concert, Steve Reich, Adams, Mantovani, et on va rencontrer son répertoire à la Cité de la Musique à la rentrée, et puis d'autres dates qui suivront.
Bien. Bon, ça fait un programme assez riche, assez chargé, je pense.
Oui, pour la rentrée, puis après, il y a plein de choses. notre résidence à Aix avec les siècles, au Grand Théâtre de Provence à partir de l'année prochaine. Enfin, oui, plein de choses à venir.
Bon ben, on vous retrouvera à ce moment-là. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.